Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le
Sois le portier de ton cœur. Les pères du désert, les pères de l'Église, sont reconnus pour leur expérience profonde de Dieu et de sa parole. Et de ce fait, de cette expérience spirituelle, ils ont acquis une connaissance particulièrement pénétrante du cœur de l'homme, de ses blocages intérieurs, ainsi que des moyens pour en sortir. Nous aurions grand bénéfice à nous plonger à nouveau dans cette sagesse des anciens. Leur enseignement présente une réelle dimension thérapeutique et demeure d'une étonnante actualité pour les âmes blessées, les psychologies douloureuses, si nombreuses de nos jours. Nous devons entre autres à un des pères de l'Église, Évagre le Pontique, 345-399, une réflexion très riche au sujet du combat spirituel. Et la sentence « Sois le portier de ton cœur » qui est le titre de cet entretien laisse entrevoir un des grands remèdes pour notre âme malade. Ou si le mot vous choque, malade, en attente d'une plus grande élévation spirituelle, libération. C'est une invitation à être le gardien de notre propre cœur, c'est-à-dire la lutte contre les pensées mauvaises. Nous vivons actuellement dans une société qui est caractérisée par l'agitation, le tourbillon effréné des pensées, des sursollicitations, rien que les SMS ou les notifications. Et cela crée des surchauffes du mental. Il est non seulement bienvenu, mais urgent de parler de la lutte contre les pensées mauvaises, toxiques. On travaille pour la sécurité sociale quand on fait ça. Sauf qu'on n'en touche pas les dividendes. Première partie. À nouveau, pour s'amuser, si vous m'autorisez, un mot un peu barbare, il faut bien s'amuser de temps en temps. Chasse au logismoï. Oui, je vois froncer les sourcils. L-O-G-I-S-M-O-I. Je vais expliquer. Je voudrais tout d'abord, avant cela, éviter une méprise. Et donc, pour cela, distinguer pensée mauvaise et mauvaise pensée. Si vous demandez à un bon paroissien, qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées ? Il dira spontanément, c'est des pensées contre la pureté, la chasteté. Et quand vous entendez logismoï, vous pourrez dire, ah ben c'est ça, oh, ben, on parle que ça, voilà. Non, 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 non. J'ai parlé de pensées mauvaises, pas de mauvaises pensées. Les pensées mauvaises, c'est beaucoup plus large que les mauvaises pensées. Tentons un essai de définition. Évagre le Pontique, qui a traité abondamment des logismoi, n'a pas inventé ce terme grec. Il l'a tout simplement emprunté à d'autres pères de l'Église qui l'ont précédé, mais c'est d'abord dans la Bible qu'Évagre a trouvé ce terme. Sagesse 1.3. Les pensées tortueuses, scolioi, logismoi, séparent de Dieu. Et donc, les amis, le champ des pensées mauvaises est très large. Bien évidemment, cela concerne les pensées qui cherchent à nous entraîner vers le mal, à faire le mal. Commentant le verset 61 du psaume 118, « Les filets du démon m'environnent », Évagre commente, dit. Les logismoi sont les filets des démons qui prennent l'âme dans leur raie et l'empêchent de prendre le chemin qui dit « Je suis le chemin ». C'est magnifique, la finale. Les pensées toxiques, quelques exemples. Des pensées non pécamineuses. Il n'y a pas péché, mais nocives. Par exemple, cultiver des pensées négatives, comme on dit aujourd'hui. Des accès de tristesse non repoussés. Et attention, je voudrais rejoindre les personnes qui sont parfois atteintes par cela. N'en rajoutez pas une couche de culpabilité. C'est pas facile à porter ce que vous pouvez porter. Ça vous cogne à la tête. Des inquiétudes irraisonnées pour le lendemain. Le fait de ressasser des choses douloureuses vécues dans le passé ou subies ou commises. Pour les curés, des projets pastoraux qu'on n'arrête pas de ressasser à l'avance. Des soucis obsédants de parents vis-à-vis de leurs enfants. Un problème matériel, comme dit le langage populaire, qui vous prend la tête. Un conflit relationnel qui vous submerge pendant des mois. Et ajoutez tout ce que vous pouvez dans ce registre. J'ai trouvé chez Sainte Élisabeth de la Trinité quelque chose de... Ouais, d'intéressant. Elle dit « Une âme qui discute avec son moi, pensez quand vous parlez tout seul, moi ça m'arrive. » Bon, c'est sûr que là je vais revenir par exemple dans l'ermitage. Donc il y a des moments où je fais un petit peu de marche, mais c'est tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez, je parle tout seul. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est beau !» Puis j'ai une joie très profonde. J'ai dit, c'est trop, Jésus. Ce genre de truc, c'est autorisé. Une âme qui discute avec son moi, qui s'occupe de ses sensibilités. Entendez bien ça, parce que toutes, nous sommes à cette école-là. Qui poursuit des pensées inutiles, un désir quelconque. Cette âme disperse ses forces. Elle n'est pas tout ordonnée à Dieu. Sa lyre ne vibre pas à l'unisson, et le maître, quand il la touche, il ne peut en faire sortir des harmonies divines, il y a trop d'humains. L'âme, dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu, ne peut être une parfaite louange de gloire. Pourquoi lutter contre, on va les appeler les pensées toxiques? Parce que le mauvaise pensée ou pensée mauvaise est tellement restreint. Pensée toxique. Nous devons lutter contre les pensées mauvaises, toxiques, car elles nous éloignent de Dieu et sont souvent une planche d'appel pour le péché. Si nous ne coupons pas court sans tarder, nous avons toutes les chances de tomber. Philothée le Sinaïte dit « Celui qui résiste dès l'abord, c'est-à-dire dès la suggestion, à couper court à toutes les infamies. Pourquoi lutter contre les pensées toxiques? Plusieurs raisons. Tout d'abord, cela nous empoisonne la vie. Le langage commun populaire est pour cela très intéressant. Ça me pourrit la vie. Ça m'empoisonne. Ça me prend la tête. Difficile de faire plus clair pour traduire cette impression douloureuse d'avoir un marteau-piqueur dans la tête. On a l'impression d'être enfermé dans une prison dont on a perdu la clé pour en sortir, sauf que la clé est dans ta poche. Soyons persuadés que le combat est à notre portée. Vous m'entendez? Ceux qui n'y croient pas parmi vous, c'est possible. Échange entre deux saints moines du désert, Abba Germain, qui demande à Abba Moïse. Comment se fait-il que souvent, à notre insu, beaucoup d'idées, de pensées mauvaises nous assaillent et nous trompent presque sans que nous nous en apercevions, s'introduisant en nous discrètement, subtilement, de telle sorte qu'il est difficile de leur interdire l'entrée et même de les reconnaître? Nous voudrions savoir aussi s'il est possible que notre pensée en soit complètement affranchie et n'en soit pas du tout troublée. Réponse d'Abba Moïse. Il est impossible que la pensée ne soit pas troublée par de telles idées, mais il est loisible à quiconque en prend soin de les accueillir ou de les rejeter. Attention les amis, n'allez pas vous fatiguer par des tensions inutiles en pensant que vous pouvez enlever les pensées qui vous traversent la tête. Là, c'est la meilleure manière de transformer votre tête en Tchernobyl. Je peux vous dire que le réacteur, il va fondre. Vous pouvez pas empêcher, parce que c'est le fonctionnement humain. Mais vous pouvez les rejeter. Qu'elles viennent à vous, qu'elles vous traversent l'esprit, c'est autre chose. Toujours cette histoire. Sentir n'est pas consentir. Il ajoute, leur venue de ces pensées ne dépend pas de nous, mais il est en notre pouvoir de les repousser et la rectification de notre pensée appartient à notre volonté. Autre raison pour laquelle il est très important de lutter contre les pensées toxiques, c'est que cela empêche Jésus de nous inspirer. Non seulement Dieu s'intéresse à nous, mais il veut nous guider. Intérieurement. Et c'est impossible de l'entendre si tu ne fais qu'entendre ton ménage intérieur, ton petit vélo qui pédale. Il va faire écran. Tu vas te laisser prendre par le bruit de ses pensées, agitées, inquiètes. Je vous donne un exemple très simple, raconté par le père Nicolas Butet dans un magnifique livre sur l'Eucharistie à l'école des saints, qui va vous parler, chers parents, avec vos enfants. Et l'avantage donc de cet exemple, c'est pour rejoindre et montrer que c'est extrêmement concret. Il rencontre un jour une maman qui faisait 3 heures d'adoration par jour. Waouh ! Elle priait, disait-elle, pour son fils, qui était en grande difficulté, drogue, zone, alcool, le reste, une tragédie. Or, cette personne extrêmement priante, au lieu d'aller mieux avec ses 3 heures d'adoration, allait de mal en pis. Alors Nicolas Butet lui demande « À qui pensez-vous devant le Saint-Sacrement? À Jésus ou à votre fils ?»« À mon fils. » Autrement dit, elle va à l'adoration et au lieu que ça produise un décentrement sur Jésus, ça produit une multiplication n'y a plus que le Fils qui est là. Et l'adoration à cette personne va lui faire du mal. Devinez, dans les retraites, il ne manque pas de rencontrer des gens comme cela, et je leur dis, arrêtez. Vous allez pratiquer une autre forme de prière, mais pas ça. Chez ces personnes-là, et revisitez toutes vos périodes douloureuses, il est déconseillé de faire de l'oraison silencieuse point barre. Je m'explique. Il faut faire de l'oraison, mais il faut l'habiter parce que les anciens, les religieuses ici savent bien, on appelait les oraisons jaculatoires, yakula, flèche. C'est-à-dire des courtes paroles qui, répétées au rythme de la respiration, vont te décentrer de toi et de tes problèmes pour te centrer sur Dieu. Et je vous invite à beaucoup pratiquer cela cette semaine. Vous venez tous avec des soucis, il n'y a que moi qui n'en ai pas. Et devant le Seigneur Jésus, il faut apprendre à le regarder, à se décentrer. Sinon, l'adoration va te faire du mal. Alors toi, t'es persuadé que ça te fait du bien parce que tu passes 2 heures, mais ça te fait du mal parce que ça renforce le petit vélo. Alors vous comprenez que cette maman, bénie soit-elle, parce que au moins elle nous le sert comme exemple, c'est formidable, on ne va pas la regarder de haut, hein. Bien. Cette maman, Dieu ne peut pas lui parler. Il y a un écran total qui est son fils. Et surtout, attention, voyez bien les choses en face, hein. C'est que cette personne-là, en priant pour son fils, elle prie pour elle-même, parce qu'elle est malade de son fils, c'est elle qui veut soigner. Il y a une sorte d'inflation de tout, c'est un nuage. Dieu, il peut pas parler. Il y a que le vélo noir qui parle. Le jésuite Louis Lallemand, dans son œuvre référence, Doctrine spirituelle, rappelle que la garde du cœur, hein, c'est une autre manière, soit le portier de ton cœur, la garde du cœur dont parlent aussi beaucoup les pères de l'Église, la tradition spirituelle, non seulement tient à l'écart du mal, mais elle rend disponible aux inspirations de l'Esprit-Saint. La garde du cœur, écrit-il, demande une attention actuelle, fréquente, sur son intérieur, pour y réprimer les sentiments contraires à la grâce et suivre les mouvements de l'Esprit de Dieu dans toute leur étendue. Ayant le cœur ouvert, vous voyez la différence avec la dame, c'est qu'en fait elle a un cœur fermé, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle laisse rentrer, voilà, ce qui l'obsède. Et elle peut pas avoir un cœur ouvert à Dieu. Et donc, le cœur est ouvert aux communications de Dieu, quand on pratique la garde du cœur, souple au mouvement de sa grâce, prompt à l'exécution de ses volontés. Nous allons faire de merveilleux progrès, et si la confiance ne nous manque, nous arriverons à la plus haute perfection. Ça va plus loin. Non seulement ça empêche Jésus de nous inspirer, mais cela empêche Jésus d'agir. Dieu est l'être le plus poli qui soit. Il ne prend dans notre âme que la place qu'on lui donne. C'est comme ça. Il est l'amour. Nous nous aimerions tellement que à ce monde qui va mal, il leur fousse des taloches. C'est pas comme ça qu'il procède. Il prend les taloches sur lui. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il est monté sur la croix. Vous allez me dire, il est un peu bizarre, votre Dieu. Oui, il est bizarre. Parce que c'est l'amour infini. C'est peut-être toi qui es un peu bizarre en pensant ces choses-là. Et donc, dès que nous y mettons les mains, dès que nous y mettons trop les mains, dès que nous y mettons trop la tête, il retire ses mains. Parce qu'il dit quoi ? Joël, il n'y a pas de place. Tu prends toute la place. Tu veux t'occuper de tout. Tu veux maîtriser tout. Tu veux tout gérer. Ben vas-y. Mais quand tu fais cela, tu sors de la confiance en moi. Je ne peux pas intervenir. Je vais vous raconter les débuts. J'étais à Kerbonan, dans une abbaye, où mon évêque m'avait placé. Puis j'étais à écrire un livre sur la miséricorde. Et là, c'était des leçons, des bonnes leçons que donne le Seigneur Jésus. C'est toujours doux, hein, et fort à la fois, je vous ai dit, avec l'Esprit Saint. Et donc j'étais à écrire un livre, une retraite, peu importe. Et si vous voulez écrire dans l'esprit, sous la conduite de l'esprit, il faut bien évidemment travailler, mais il faut travailler avec un certain dégagement. Pas la tête dans le guidon. C'est-à-dire comme un enfant. Si vous voulez une image, vous allez gagner le Tour de France, mais pas la tête dans le guidon, avec une marguerite entre les dents. Ça fait drôle, non ? Et puis je me retrouve avec la messe, avec les moines. Et puis tout d'un coup, je suis traversé d'une très bonne idée, accouchée sur le papier, pour le thème que je suis en train de traiter. Ça me passe par la tête, pendant la messe. Et bien sûr, voyant que l'idée me parlait, elle venait pas de moi, mais elle me parlait. Quand je sais que c'est comme ça, je sais que ça va parler aux gens. Parce que je suis le premier lecteur de ce que j'écris. Et donc, je laisse filer l'idée pendant la messe. Vous allez me dire, c'est pas un gros péché. C'est alors que l'Esprit Saint, délicatement, et je vous redis, il ne me parle pas, mais il parle quand même. Comme dirait Thérèse, sans bruit de parole. Je sens qu'il me reprend. Et il me fait comprendre intérieurement que mes soi-disant saintes distractions ne venaient pas forcément de lui, ou ça pouvait venir de lui, mais le fait de filer l'idée ne venait pas de lui. Il me semblait qu'il ajoutait qu'il n'était pas manchot, Dieu. Nombre 11-23. Le bras de Dieu serait-il court ? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite s'accomplit ou non. Alors ça a été une grande joie, j'ai lâché complètement l'idée et je lui ai posé un acte de foi, je suis à la messe Jésus, je ne suis pas à écrire le livre, donc je suis à la messe, excite ces trucs-là, tu n'es pas manchot, je te demande de me rappeler ce qui me semble être une bonne idée de toi quand je vais être devant l'ordinateur dans 2 heures, mais pas avant, chaque chose en son temps. Et je me suis mis à travailler tranquillement après. Non seulement l'idée est revenue, mais il a élargi le truc. Et là, vous êtes dans une action de grâce extraordinaire. Et vous comprenez, si vous ne voulez pas obéir au Saint-Esprit, vous obéirez à votre propre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas une invitation à ne rien faire. C'est une invitation à recevoir son faire. Un jour, les amis, Mercedes était encore vivante. Ah, périple des périples, elle était complètement femme de Saint-Antoine de Padoue. C'était son saint, pas pour les clés perdues. Hein. Chez elle, c'était un deal énorme. J'ai jamais vu ça. Même ses fils et ses filles en étaient sidérés. Et donc, je dis, ça vous ferait plaisir ? On est parti. Et puis, j'avais un grand intellectuel théologien qui m'avait envoyé 2 de ses livres. Parce qu'il avait dû lire un livre que j'avais écrit. Donc, il n'était pas vraiment théologie par rapport à ce qu'il écrit. Bon. Et puis, je lui ai dit, tiens, on passe pas très loin. On pourrait s'arrêter. Je voudrais lui dire merci. Puis, j'aurais quelques questions à lui poser. Je m'arrête. Je le vois. Mercedes reste dans la voiture. J'essaye de parler avec lui. C'est bien, c'est un esprit très puissant, j'ai pas pu en placer une. Pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce que c'est des esprits puissants, ils suivent leur idée, voilà. Bon, c'est pas très grave, il est gentil. Et puis il m'accompagne à la messe, à la voiture. Il a lu Renaître d'en haut. Donc c'est un gros docteur en théologie. En plus, il a des missions de la part de l'épiscopat. Donc, voilà, portrait parfait, quoi. Et il a lu Renaître d'en haut, et il voit la vieille femme dans la voiture. Et là, le bon Dieu me dit, ça y est, j'ai compris ce qui se passe dans sa tête. Il va la tester. Donc, ah, bonjour madame. Et moi, je fais l'innocent. Ah, montez devant à ma place, monsieur le théologien. Je vais monter à l'arrière. Et donc, Mercedes, elle ne le connaît pas. Mais elle sait dans son âme, l'Esprit Saint l'informe, il vient voir si je suis une sorcière ou pas. Si je suis de l'esprit ou pas. Mais il sait pas, lui. Lui, il a des diplômes, mais il est pas dans l'esprit. Et puis, à un moment, je les laisse prier. Moi, j'étais derrière, je regardais le ménage. C'était à mourir de rien. Vous savez, les intellectuels m'impressionnent pas trop maintenant. Si, ils m'impressionnent quand c'est des petits. Ça, c'est impressionnant. Benoît XVI. Thomas d'Aquin. Ça, c'est impressionnant. Et donc, il parle, il dit, on va prier ensemble. Alors, il fait un grand discours théologique, bien sûr. Puis Mercedes est là, elle baisse sa casquette, et elle dit intérieurement, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est un prêtre? Jésus? Non, Saint-Antoine. Qu'est-ce que je peux dire à ce prêtre? Il peut juste avoir l'air d'être un grand prêtre. Et elle parle avec les mots très simples d'une grand-mère. Et elle dit un mot. Elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle dit un mot qui le rejoint dans son expérience et son combat du moment. Et le père lui demande, mais alors, mais il faut que je demande tout. Et elle fait cette réponse. Vous devez lui demander en tout. Quand vous décidez de creuser une idée théologique, est-ce que c'est votre volonté ou est-ce que c'est celle de Dieu? Et taper sur le tableau de bord, je dis pas trop fort. Là, j'ai vu ce que c'est les Anaouim, qui sont beaucoup plus puissants que les puissants de la terre. En même temps, nous la quittons, nous passons la frontière, et elle avait une expression très simple. Mon père, je l'ai sur le dos, le théologien d'hier. Oh, c'est beau, il me fait confiance à moi, la vieille femme. Et effectivement, il me téléphonait de temps en temps, il avait des missions un peu secrètes, je sais pas quoi, un peu particulières. Et donc, est-ce que vous pourriez demander à Madame Mercedes de prier ce qu'elle faisait? Il a très bien compris qu'on peut même faire de la théologie selon sa volonté. Ce qui m'amuse, c'est que les spécialistes, parfois, de la théologie, vont faire des grands discours, et ils pratiquent même pas le béaba de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire de pratiquer de la théologie à partir des dons du Saint-Esprit. Ils le font à partir de leur esprit. C'est en m'imprégnant de la manière de faire de la petite Thérèse que j'ai peu à peu accédé à ce nouveau mode de fonctionnement, de passer du faire qui gère tout à un laisser-faire qui n'a rien à voir avec un laisser-aller ou qui n'a rien à voir avec un rien-faire. Écoutez comment Thérèse pratique cela dans les riens du quotidien. Quand ma sœur Geneviève venait au parloir, je ne pouvais pas lui dire en une demi-heure tout ce que j'aurais voulu. Alors dans la semaine, quand j'avais une lumière, ou bien si je regrettais d'avoir oublié de lui dire quelque chose, je demandais au bon Dieu de lui faire savoir et comprendre ce que je pensais. Et au prochain parloir, elle me disait juste ce que j'avais demandé au bon Dieu de lui faire savoir. Nous, tout de suite, c'est SMS. C'est tout de suite, je gère. Bah, vas-y, gère. Vas-y, vas-y. Elle ajoute. Ça va très loin quand vous êtes parent avec les peines de vos enfants, etc. Ou inversement. Au commencement, quand Geneviève avait de la peine et que je n'avais pu réussir à la consoler, je m'en allais le cœur navré, mais je compris bientôt que ce n'était pas moi qui pouvais consoler une âme. Les soucis ressassés des parents pour arriver à consoler leurs enfants. Thérèse dit, c'est pas moi qui peux consoler. Et alors, je n'avais plus de chagrin quand elle était partie toute triste. Je demandais au bon Dieu de suppléer à mon impuissance et je sentais qu'il m'exauçait. Je m'en rendais compte au parloir d'après. Depuis ce temps-là, quand j'ai fait de la peine involontairement, je demande au bon Dieu de réparer cela et je ne me tourmente plus. Oh, la clé de vie, là. Oh, la clé de vie. Et dites pas, c'est des histoires pour des curés ou des bonnes sœurs. C'est la vie familiale, ça, les amis. Vous allez me dire, un peu trop facile, mon père. Ben, vas-y. T'as vu? T'as été marcher en bas, là? Et un petit ruisseau. Ce que je te dis, ça s'appelle marcher sur l'eau. Alors, on va descendre, et sans maillot de bain, s'il te plaît. On va voir si c'est si facile que ça, de marcher sur l'eau. Car marcher sur l'eau, c'est faire confiance que l'invisible peut s'impliquer dans le visible. Ben, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de monde à se bousculer au portillon pour ce genre d'expérience. Il n'y a rien de plus inconfortable dans un premier temps que de marcher sur l'eau. Allez donc demander à Pierre. Il a commencé à couler quand il a quitté la confiance. Pourquoi il faut chasser les logismoi? Parce que cela sert le travail du diable. Il est une guerre, dit Philothée le Sinaïte. Il est une guerre que mènent secrètement les esprits du mal et qui les met aux prises avec l'âme à travers les pensées, comme l'âme est elle-même invisible. Ses puissances malveillantes, s'adaptant à sa nature, se portent vers elle en menant cette guerre invisible. Je vous ai utilisé une expression que je n'aurais pas utilisée il y a quelques années, car je ne voyais pas clair sur ce point précis. Je vous ai dit que lorsque des personnes vivent sous le joug de leur ressenti, de leur émotion, de tout le manège intérieur qu'ils s'inventent, ils s'auto-possèdent. Ils n'ont pas besoin d'aller trouver le diable. Ils s'auto-possèdent. Mettez les rectificatifs que vous voudrez. Vous voyez bien, il n'y a pas de possession au sens technique du terme, mais il y a une auto-possession par les pensées. Je le vois de plus en plus. Je vais vous donner un cas. Bon, vous ne pourrez pas reconnaître. Je maquille toujours les choses de manière que ce ne soit pas reconnu, tout en disant la vérité. Une laïque entre dans une communauté où elle est laïque consacrée. Elle n'a pas connu l'idéal au niveau familial et elle a développé une jalousie quasiment maladive. Oui, j'enlève le mot quasiment. Il fallait s'y attendre. Lorsqu'elle entre en communauté, elle va reproduire le même mode de fonctionnement intérieur qu'elle entretenait jusqu'alors dans le monde. Ce fut très rude pour elle, mais aussi pour son entourage, parce que c'est invivable. La moindre attention prodiguée par la supérieure à l'endroit d'une autre sœur la plongeait dans une terrible crise de jalousie, avec parfois des accès de violence physique
les amis. Heureusement que les gens savent pas tout ce qui se passe dans les monastères ou les communautés religieuses, je peux vous dire. En tant qu'il serait pareil. Hein. Et lorsqu'elle constatait qu'une autre de ses consœurs avait des dons éclatants ou rayonnait par des vertus qu'il n'avait pas, la sœur en question passait ses oraisons à ruminer des pensées de tristesse et de dépréciation d'elle-même, se voyant si minable parce qu'elle se comparait. Et puis les pensées de colère, plus ou moins inconscientes, contre Dieu. Tout est lié, je vous ai dit, l'homme est un triangle. Et voici qu'après des années de vie empoisonnée avec ce mode de fonctionnement, elle prend conscience, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire cela, du caractère toxique de son fonctionnement intérieur. Elle arrête ses bêtises. Elle arrête cette autopossession. Elle commence à se battre contre son penchant à la rumination intérieure. La tendance était lourde, il fallait s'attendre à quelques victoires et beaucoup de défaites. Mais c'est pas grave, le principal est de se mettre en selle, même si on tombe par terre. Concrètement, dès qu'elle prenait conscience qu'elle était en train de se laisser gagner à nouveau par un flot de pensées négatives, aussitôt elle coupait court. Si vous voulez un autre titre de cet entretien de ce soir, soit le portier de ton cœur, le gardien de ton cœur, comment j'ai dit, le portier de ton cœur, apprendre à couper court. Elle bénissait le Seigneur qui l'avait créé avec sa nature fragile. Et dans son retournement intérieur, elle s'ouvrait à la dimension oblative. Elle offrait encore au Seigneur ses pensées de dépréciation, de colère et de jalousie. Elle découvrit peu à peu le visage de la divine miséricorde capable de changer en or pur de l'or dur. Et je peux vous certifier que je ne vous invente pas ou je ne vous exagère pas le truc, puisque récemment encore, elle vient vivre un autre palier, elle est méconnaissable. Et là, elle va entrer dans quelque chose de beaucoup plus large. C'est pour ça, les amis, arrêtez de rêver que c'est avec des anamnèses que vous allez guérir, ça suffit ces trucs-là. Je suis pas contre, je suis même pour. Mais vous avez une collaboration à vivre, chacun de votre propre guérison. Et c'est pas un type qui va vous faire une anamnèse qui va tout régler. Enfin quoi ? Il nous faut participer à notre propre combat spirituel. Et là, dans l'Église, il y a parfois, oh là, des insuffisances, pour ne pas dire de terribles mensonges. On ment aux gens. Là, elle est en train de découvrir la cause profonde, qui remonte bien sûr à l'enfance. Et elle n'est pas dans l'introspection. Et elle se bat. Elle est admirable. Pour moi, ce genre de cas, on ne peut pas regarder ça de haut avec dureté. C'est admirable. Les gens viennent de très loin, pour être plus précis, de très bas. Et elle va aller très haut. Mais elle se bat. Couper court humainement. Et après, on verra couper court spirituellement. La première marche, c'est de croire qu'une victoire est à ma portée. Combien de gens disent, je les entends, mais mon père, c'est pas possible pour moi. Bon, ben c'est pas possible pour toi, parce que t'as décrété, ça sera pas possible. Il faut commencer par croire que ce soit possible, pour toi. Mon père, j'ai toujours été comme ça. Oui, pourquoi pas être autrement ? L'important, c'est le premier pas. Le premier pas, je voudrais qu'elle fasse le premier pas. souvenir d'enfance. Bien. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, qui a été pour moi vraiment... Parce que vous voyez bien, je vous ai dit, vous en apprendrez plus par l'expérience que dans les bouquins. Voilà, j'étais à Toulouse, chez des sœurs. Mon évêque me demande de revenir. Bien, mon capitaine, on n'est pas à son compte. Enfin, c'est pas capitaine, c'est mon évêque. Donc voilà, et mes confrères me disent, bah, écoute Joël, on n'a pas de presbytère à donner, tout ça, c'est toutes les mairies des piques, hein. Puis le style de vie que tu veux mener. Bon, puis j'ai un ami qui me dit, mais Joël, pourquoi t'achètes pas une maison? Je dis, mais ça va pas un prêtre acheter une maison. Bon, papa est mort, ils ont vécu les 30 glorieuses, ils ont été vignerons. Bon, ils ont fait du, hein, ils ont fait ce qu'il faut, quoi. Et donc, ils avaient fait des partages. Moi, j'avais un appartement, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Je dis à papa et maman, mais un prêtre, c'est logé par l'évêque, maman. J'ai pas besoin de ça. Bah, on a fait le partage avec les autres, t'auras ta part comme tout. Bon, donc il touchait à l'argent, moi je sais même pas où il était. Donc tout a été providentiel. Alors je vous donne, c'était très précis. Donc cet ami m'a effectivement convaincu, il le fallait, il n'y a pas d'autre solution. Et la providence a trouvé quelque chose, mais incroyable. Je quitte Toulouse, les banquiers c'est bien gentil, mais quand tu les quittes, pour te faire passer une autre agence, tu les intéresses plus, quoi. Autrement dit, débrouillez-vous pour... Et moi, je sais rien faire de tout ça. J'arrive dans le petit bled où je suis, je téléphone à la poste. Le matin, j'arrive, parce que voilà, il y avait un transfert d'argent à faire pour donner à l'acquéreur, et ça devait se faire le lendemain. Et puis c'était pas fait, parce que la postière avait rien fait. Ou du moins la conseillère de rien, d'ailleurs. Bon. Et là, j'étais dans l'inquiétude. Je me souviens, j'étais avec maman, parce que moi, j'ai une maman qui est couturière, donc c'est extraordinaire. Elle est venue à placer les rideaux. Enfin, pour les mamans, ça va vous parler. Puis en plus, ça a beaucoup de goût. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a dit de choisir la maison, parce que comme elle a les pieds sur terre, les gens du rural, ils ont les pieds sur terre. On a vécu deux maisons. Elle a dit, celle-là, non, ça va pas, j'ai pas monté au premier étage. C'est nul, ça, à celle-là, rate-la pas. Tu crois, maman? Bon, j'y vais. Et alors, on part avec maman. Et on célèbre la messe avant de partir, où elle habite. Et je suis obsédé par l'inquiétude du pactole pour la dame à qui je dois... Pardon, j'ai dit acquéreur. Vous avez traduit. Hein. La dame qui vendait. Et donc, je suis à la messe. Mais un véritable marteau-piqueur dans la tête. L'angoisse. Mais comment je fais demain? Mais si elle n'a pas le truc, alors la maison va me passer sous le nez, tout ça. Et puis je vais payer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'y connais rien. Bon. L'obsession de l'angoisse. Non, ça vous parle pas? Parce que j'y arrive jamais. Non. Dites-moi, rassurez-moi. Et là, je me souviens, parce que je suis d'une nature un peu inquiète comme ça. Enfin, beaucoup moins maintenant, je vois bien. Et à la messe, je commence à me battre. J'ai dit non, Jésus, je suis à la messe. Je rejette. Ça revenait, mais 3 minutes après. Et puis je réattaquais, je n'y jamais arrivé. Puis à un moment, je crois que c'était une grâce, j'ai vraiment dit non, je ne veux pas. Je veux être à la messe. Pas être soucieux de ce souci matériel. Je te le donne, Providence, tu t'en occupes. Et là, la messe, j'étais vraiment dans la messe. Nous partons avec maman, elle s'occupe de ses rideaux, et elle fait ça magnifiquement. Et puis moi, dans la journée, j'avais été voir le postier, et je lui disais, est-ce que vous pourriez d'urgence téléphoner à la dame qui s'occupe de l'endroit où j'arrive? Bah écoutez, je vais essayer de m'en occuper. Oh, ça répondait pas sur le téléphone. Rien, rien. Pour vous montrer que c'était la providence. Le soir, j'ai tout rejeté. On avait dépassé l'heure de la fermeture du guichet. Et au moment où on plie les gaules pour rentrer chez nous, parce que la maison n'était pas encore en possession, on nous avait autorisé à faire quelques petits travaux. La nouvelle postière, la fleur au fusil pour elle, c'était tout simple, quoi. Allô, oui, bonjour, monsieur Guibert, oui. Eh bien, plouc, c'est fait. J'ai dit, maman, ce soir, on pète une bouteille de muscadet, il y a pas de bizarre. Une joie extraordinaire. Donc vous voyez, le père Joël, qui est de votre race, qui peut par nature s'inquiéter facilement, a réussi à se battre. Mais qu'est-ce qui s'est battu? Il peut y avoir parfois des exercices corporels. Je pense que les gens n'arriveront pas parfois au couper court spirituel parce qu'ils sont trop, c'est trop fort leur ménage intérieur. Et il faut parfois que ça commence par des exercices corporels style vitose, par exemple. Je vous souhaite quelques insomnies cette semaine pour que vous viviez quelques travaux pratiques. Bon, si ça vous arrive à l'avenir, vous avez un souci de famille, un souci. Et vous vous réveillez. Et puis bien sûr, l'angoisse vient. Oh, est-ce que je vais me rendormir? Ça y est, je sens le souci. Voilà. Et là, vous êtes sur votre matelas. Et vous allez poser les mains. Et puis vous allez sentir les points de contact de vos doigts avec le matelas. Puis vous allez faire une respiration profonde avec le diaphragme tout d'abord. Hein, c'est pas les femmes enceintes que je vais apprendre ça quand même. Puis ensuite, avec les poumons. Pas avec les poumons d'abord, avec le diaphragme et les poumons. Et ensuite, vous faites une légère apnée. Et ensuite, c'est pas du genre... Non. Vous laissez l'air, voilà, très faible. Et ensuite, le très important, c'est qu'il reste encore de l'air. Et là, vous allez pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait l'air. Vous allez creuser votre... qu'il n'y ait plus rien, rien. Et ensuite... Et là, vous allez sentir, là où il y a les zones de contraction, que vous soyez homme ou femme, c'est là que se créent des fois. Vous allez sentir une dilatation profonde. Et ensuite, vous quittez le mental et vous revenez au point de contact, à la sensation pure, dirait Monsieur Vitose. Et après, vous allez repratiquer ça gentiment. Et vous allez apprendre, vous allez obtenir un empire sur vous-même et vos pensées. Et vous allez commencer à comprendre, mais j'y arrive, moi qui croyais ne pas arriver. Et ça va être une première marche pour pratiquer l'abandon spirituel, parce que dans un premier temps, des gens qui sont très facilement inondés, vous leur proposez le spirituel, ils comprendront pas, c'est pas qu'ils sont obtus, c'est parce que c'est trop leur demander. Il faut qu'ils aient une première marche intermédiaire. Couper court spirituellement. Quand les nuits dans les retraites sont plus difficiles pour ma part, qu'est-ce que vous croyez que je fais? Ce que je vous dis de faire. Je lui dis, puisque tu veux que ça se passe comme ça, Jésus, je veux bien. Je n'allume pas la lumière, mais je le regarde, puisqu'il est là. J'arrête de regarder mon insomnie. Sachez que les spécialistes du sommeil disent que l'insomnie est décuplée par la peur de pas dormir. Et l'acceptation de pas dormir va arrêter ta peur de l'insomnie. Ensuite, vous regardez Jésus. Puis là, vous vous aidez de paroles. Moi, je pratique un petit chant en langue, tout simple, au rythme de la respiration, mais de plus en plus simple. Un. Un. Voyez? Et surtout l'important, dans ce souffle, on n'est pas dans les mantras extrême-orientales, ça c'est à déconseiller. On est habité par la présence à la présence à Jésus. Et ça va te simplifier, ça va te pacifier, et après... Quand vous êtes dans l'angoisse, je connais, il n'est pas possible d'enfanter des âmes en dehors de la souffrance, dit Thérèse de Lisieux. Je le vois maintenant, c'est très clair. Il n'est pas possible d'enfanter des âmes en dehors de l'angoisse. C'est ce que faisait Padre Pio. Jésus lui donnait de porter l'angoisse des gens qu'il allait guérir de l'angoisse. Il y a comme un vase communicant. Vous allez dire, mais c'est terrible. Non. Car ça, je le goûte. Et donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très avancé dans la vie spirituelle pour le goûter. Il y a des fois où quand il demande de porter quelque chose qui n'est pas une angoisse psychologique, je peux vous le dire, c'est une oppression. Et vous l'habitez tout simplement à l'intérieur en disant un grand oui et en restant les yeux fixés sur lui. Eh bien, l'angoisse, il n'y a pas de la joie après l'angoisse. Il y a une joie dans l'angoisse. C'est impossible à comprendre tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur. Vous dites, il doit être un peu phosphoré là. Le jésuite américain Walter Zizek a été interné 23 ans en Sibérie. Et puis il a eu de la captivité, torture psychique à la Lubyanka. Esprit hyper puissant, mental d'acier. Et là, il perd pied au bout d'un moment. Et il dit, j'ai appris très vite que la prière n'enlève pas la souffrance physique ni les angoisses de l'esprit. Néanmoins, elle me donnait une certaine force, la prière, pour porter patiemment ce fardeau. Et c'est très certainement la prière qui m'a aidé à traverser cette crise comme toutes les autres crises de ma vie. Chez un autre jésuite psychanalyste, Jean-François Catalan, pour les personnes qui traversent des déprimes, j'ai trouvé ça une fois, je trouvais ça très beau. Quand vous êtes en dépression, il faut avoir le courage de crier vers Dieu, de lui demander pourquoi. Il n'y aura peut-être apparemment pas de réponse, mais une relation se crée. Je vais ajouter, c'est pas pour contredire Catalan, c'est pour compléter, il me semble, sans être prétentieux par rapport à ce grand esprit. Je crois que passer son temps à demander à Dieu pourquoi va renforcer la fixation psychologique sur le problème. Il y a un moment où il ne reste plus que l'oblatif. Moi, j'ai passé des années à lui demander, au début où j'ai prêché et où je vivais ces choses-là, je lui ai demandé pourquoi, pourquoi ? Ça ne fait que renforcer le problème. Il faut passer du pourquoi en un seul mot au pourquoi en deux mots, en vue de quoi. C'est-à-dire, entrer dans l'union. Plus vous allez essayer de comprendre, plus vous allez fatiguer votre mental, plus vous allez renforcer votre fixation psychologique sur les problèmes. Vous allez choisir l'union. Et c'est extrêmement simple. Voilà. C'est l'union. Elle peut être habitée par des paroles. Des fois, il n'y a pas de paroles. C'est l'union. La présence à la présence. Et l'important est de durer. Et si vous n'êtes pas bien du tout, là, la louange est d'une très grande puissance. Quand j'étais en Afrique, j'étais obligé de me lever la nuit pour prendre de temps de louange. Et comme les moustiques étaient gentils, j'étais obligé de rester sous la moustiquaire pendant une heure. J'avais réussi, parce que j'avais pas d'argent, à récupérer quelques cassettes de louanges. Je m'étais pas fort, parce que vous devinez, en Afrique, c'est fenêtre ouverte. Je voulais pas que mes confrères m'entendent, sinon ils m'auraient pris pour un barjot. Et là, je prenais un temps. Le très, très important. Oui, ça me vient, ça, c'est ceci. Quand tu es au début de l'oraison, tu n'es pas bien. Bon. Si tu passes ton temps à lui dire « je suis pas bien », tu seras très très mal. Il y a un moment où il faut dire « je suis pas bien Jésus, mais toi tu ne changes pas ». Alors, basta, on loue gratuitement Dieu pour lui-même. Et je sais que toute la fécondité qu'il y a aujourd'hui dans ma vie sacerdotale vient de cette période. Ô Jésus, ô Maman Marie, enseigne-leur, toi qui habites au plus intime de leur cœur, tout particulièrement ceux qui souffrent beaucoup de peine intérieure, de combat contre les pensées, de désespoir, de tristesse, je ne sais. Maman Marie, enseigne-leur le couper court, rends-les patrons de leur intérieur, et pour ça, fais-leur découvrir l'union complètement gratuite.